Chapitre 10. Le cri de minuit. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Matthieu 25, versets 6 à 7. Nous avons déjà parlé du délai mentionné dans la parabole des 10 vierges, et nous allons maintenant donner une attention particulière à la partie de cette parabole introduite dans le texte ci-dessus, et désignée par le peuple adventiste comme étant le cri de minuit. Un célèbre écrivain dit à ce sujet, dans un périodique appelé le Midnight Cry, le 3 octobre 1844, « Mais pourquoi sommes-nous arrivés à ce délai ? Parce que nous avons daté le commencement de la vision des 2300 jours, au printemps, au lieu de l'automne 457 avant Jésus-Christ. Nous avons manqué la date réelle de 6 mois et quelques jours de plus. Cela nous a plongés dans cette nuit d'attente pendant 6 mois. » Un autre écrivain, Snow, dans le Midnight Cry du 22 août 1844, parlant des 2300 jours, dit « À la sortie du décret, ils commencèrent de restaurer et construire Jérusalem. Le décret fut d'abord publié par Cyrus, renouvelé par Darius, et achevé par Artaxerxès longuement pendant la 7e année de son règne. Il fut promulgué et entra en vigueur en automne de l'année 457 avant notre ère, lorsqu'Esdras, étant arrivé à Jérusalem, grâce à la bonne main du Seigneur, restaura la communauté juive, nomma les magistrats et les juges, et commença la construction du mur. Comme la période de la vision était de 2300 années complètes, il fallait toute l'année 457 et toute l'année 1843 pour faire 2300 ans. Et si le décret est entré en vigueur au 7e mois de 457 avant Jésus-Christ, alors la période ne prendrait pas fin avant le 7e mois de 1844. Comme la célébration du 10e jour du 7e mois semblait être l'événement qui marqua le début de la période, alors il était démontré de façon concluante que les 2300 jours se termineraient le 10e jour du 7e mois du calendrier juif, le 22 octobre 1844, et le moment de la purification du sanctuaire serait venu. Tous les éléments de preuve utilisés pour la fin de la période en 1843 s'appliquaient avec autant de force pour arriver à la date de 1844, et avec elle, l'assurance qu'ils avaient découvert ce qui semblait être une explication certaine de la cause de leur désappointement. La manière dont les adventistes ont proclamé le véritable cri de minuit, comme il fut ensuite nommé, ne peut être mieux illustrée qu'en citant les écrits de ceux qui étaient très engagés dans l'œuvre à l'époque. Aller à sa rencontre. Dans le Midnight Cry du 3 octobre 1844 était un article écrit par George Storrs sous le titre « Aller à sa rencontre », dans lequel il disait « Je prends mon stylo avec des sentiments que je n'ai jamais connus auparavant. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Le 10e jour du 7e mois verra la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Nous sommes à quelques jours de ce terrible événement, un horrible moment pour ceux qui ne sont pas préparés, mais glorieux pour ceux qui sont prêts. Voici, l'époux vient cette année. Allez à sa rencontre. Nous en avons terminé avec les églises nominales et tous les méchants, sauf si ce cri peut les toucher. Notre travail consiste aujourd'hui à réveiller les vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Où en sommes-nous maintenant? Si la vision tarde, attends-la. N'est-ce pas là notre réponse depuis mars ou avril dernier? Oui. Que s'est-il passé pendant que l'époux tardait? Toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent, n'est-ce pas? Les paroles du Christ ne sont pas en échec, et l'Écriture ne peut être anéantie. Il est inutile de prétendre que nous étions éveillés, nous étions endormis, non pas sur le fait de la venue du Christ, mais sur la date. Nous sommes entrés dans le délai, nous ne savions pas combien de temps il durerait, et sur ce point, nous avons sommeillé. Certains d'entre nous ont dit dans leur sommeil « Ne fixons pas d'autre date ». Alors nous nous sommes endormis. Maintenant le problème est de nous réveiller. Seigneur, aide-nous, car l'aide de l'homme est vaine. Parle toi-même, Seigneur. Oh, que le Père puisse maintenant faire connaître le temps. Le minuit du message.
Quelle est la durée du délai?
Une demi-année.
Comment le savez-vous?
Parce que notre Seigneur dit « À minuit, tandis que l'époux tardait ». La vision était de 2300 soirs et matins, ou jours. Un soir ou une nuit est la moitié de l'un de ces jours prophétiques et dure, par conséquent, 6 mois. C'est toute la longueur du délai.
La puissante annonce actuelle de la date a commencé vers le milieu du mois de juillet et s'est répandue avec une grande rapidité et avec puissance, et elle est accompagnée d'une démonstration de l'esprit telle que je n'en ai jamais été témoin lorsque le cri était 1843. C'est maintenant littéralement « aller à sa rencontre ». Il y a un abandon de tout tel que je n'avais jamais rêvé pouvoir voir. Lorsque ce cri s'empare du cœur, les agriculteurs abandonnent leurs fermes avec leurs cultures. Il y a de grands cris avec des pleurs et des larmes et une consécration de tous à Dieu, telle que je n'en ai jamais été témoin. Il y a une confiance dans cette vérité jamais ressentie à ce degré dans le cri précédent, et une gloire à pleurer ou à fondre en larmes qui dépasse toute compréhension, sauf pour ceux qui l'ont ressentie. Sur cette vérité présente, par la grâce, j'ai osé tout risquer, et je sens que douter à ce sujet serait offenser Dieu et me condamner à une destruction rapide. Je suis maintenant convaincu que, partout où ce cri a été assez entendu, quiconque cherchera à sauver sa vie en se laissant aller à un « s'il ne vient pas » ou par crainte de s'aventurer dans cette vérité, perdra sa vie. C'est la même foi qui conduisit Abraham à offrir Isaac, ou Noé à construire l'arche, ou Lot à quitter Sodome, ou les enfants d'Israël à se tenir debout toute la nuit en attente de leur départ d'Égypte, ou Daniel à aller dans la fosse aux lions, ou les trois Hébreux dans la fournaise ardente. Nous nous sommes imaginés que nous irions dans le royaume sans un tel test de notre foi, mais je suis satisfait que ce ne soit pas le cas. Cette dernière vérité apporte un tel test, et nul ne s'y osera s'il a peur d'être considéré comme insensé, fou ou par toute autre insulte que les sodomites antédiluviens, une église tiède ou des vierges endormies sont prêts à lui lancer. Une fois de plus, je crie, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. » Le rocher plat de George Storrs. Dans le Midnight Cry du 10 octobre 1844, fut imprimé, sous la plume de George Storrs, l'article qui suit, sous le titre « La fin », mais appelé par les adventistes « Le rocher plat de George Storrs ». Comment serons-nous prêts pour ce jour-là? Croyez à la vérité de Dieu et embarquez-vous dans cette aventure avec une foi solide qui rend gloire à Dieu. Nous devons avoir le même état d'esprit que nous aurions si nous savions que nous devions mourir en ce jour, la même entière consécration à Dieu et être morts au monde. Je ne peux pas mieux illustrer ce que je veux dire que de supposer un grand rocher plat au milieu de l'océan. Une promesse est faite par un prince puissant et glorieux qu'à un moment donné, il va envoyer un magnifique bateau à vapeur pour transporter dans un glorieux pays toutes les personnes qu'il trouvera là, avec les preuves qu'ils ont totalement eu confiance à sa parole. Beaucoup s'aventurent sur le rocher. Certains, lorsqu'ils sont en sécurité sur le rocher, coupent la corde, et leur barque avec laquelle ils sont venus s'en va à la dérive loin d'eux, et ils ne s'en occupent plus, mais attendent l'arrivée du bateau à vapeur. Ils n'ont aucun doute de la vérité de la promesse, et risquent tout sur elle. D'autres qui viennent là pensent qu'il suffit d'être sur le rocher. Mais ils veulent être sages et ne veulent pas courir un trop grand risque. « Il sera fait selon votre foi », a-t-il été déclaré avant le moment où le bateau à vapeur devait arriver. Le jour arrive. Les prudents, peut-être, ont l'intention d'abandonner leur barque et de les laisser flotter s'ils voient venir le bateau à vapeur. Il apparaît à l'horizon, mais maintenant, il est trop tard pour laisser aller sa barque sans être découvert. Et d'ailleurs, la même prudence dicterait maintenant de ne pas laisser flotter leur bateau jusqu'à ce qu'ils soient certains de ne pas être dans l'erreur concernant l'approche du navire. Maintenant, il est tellement près qu'ils ne peuvent couper la corde sans être découverts. Le bateau à vapeur arrive au rocher. Quelle est la preuve que vous avez eu une confiance implicite dans la promesse de l'arrivée du bateau à vapeur? Nous avons lâché nos bateaux et ils flottent loin de nous. Nous ne pouvons pas retourner à terre et nous aurions péri si le bateau à vapeur n'était pas arrivé, car aucun autre navire ne passe jamais par ce rocher. « C'est assez !» crie le commandant du bateau à vapeur. « Montez à bord ! Une telle confiance ne doit pas être désappointée. » Ceux qui avaient gardé leur bateau amarré au rocher font maintenant foule et s'efforcent de monter à bord du bateau à vapeur. Le commandant leur demande « Que signifient ces bateaux que je vois amarrés au rocher là-bas, ou dont les cordes ont été coupées seulement lorsque mon arrivée était en vue ?» Ils répondirent, « Nous avons pensé être prudents, de sorte que si le bateau à vapeur n'arrivait pas, nous aurions quelque chose pour retourner sur la terre ferme. Vous avez pris des dispositions pour la chair, pleure le commandant, et vous avez ainsi mis en doute mes paroles? Il vous sera fait selon votre foi. Les preuves sont contre vous. Vous avez pris des dispositions pour retourner, et maintenant vous devez récolter les fruits de votre incrédulité. Alors, ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oh, quel état de désespoir affreux! Coupez vos cordes maintenant, frères. Laissez vos bateaux flotter à la dérive hors de la vue. Oui, faites vite avant que le signe du Fils de l'homme apparaisse. Alors il sera trop tard. Osez maintenant, et osez tout. Oh, mon cœur souffre pour vous. Ne traînez pas. Poussez ce bateau où vous êtes perdus. Car quiconque s'efforce de sauver sa vie la perdra. C'est ce que dit Jésus-Christ, notre Seigneur et Juge. Faites vite. Une fois de plus, je vous en supplie, dépêchez-vous. Laissez aller chaque bateau grâce auquel vous pensez maintenant retourner sur la terre ferme, s'il ne vient pas. Ceci vous ruinera. C'est maintenant la dernière épreuve et tentation. Faites comme notre Seigneur a fait lors de la dernière tentation du diable. « Retire-toi, Satan, » dit-il. Alors, le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il en sera de même pour vous quand vous aurez obtenu cette victoire. L'œuvre rapide du cri de minuit. Quant à la rapidité, la puissance et l'effet du message du cri de minuit, nous en avons une idée correcte dans les mots de N. Southard, rédacteur du journal que nous avons déjà cité, le Midnight Cry. Dans l'exemplaire en date du 31 octobre 1844, il dit « D'abord, les gens se sont généralement opposés à une date, mais il semblait y avoir une puissance irrésistible qui accompagnait son annonce. Tout se prosternait devant elle. Elle a balayé le pays à la vitesse d'une tornade, et elle atteignit les cœurs dans différents endroits lointains presque simultanément, et d'une manière explicable uniquement en supposant que Dieu était en elle. Elle produisit partout le plus profond examen du cœur et l'humiliation de l'âme devant le ciel. Elle provoqua un sevrage de l'amour des choses de ce monde, une guérison des controverses et des animosités, une confession des torts, une humiliation devant Dieu, et des supplications à Dieu pleines de remords, le cœur brisé, pour pardon et acceptation. Elle provoqua une humiliation et une prostration de l'âme telles que nous ne les avons jamais vues auparavant. Comme Dieu le commanda par Joël, quand le grand jour de Dieu serait proche, il produirait un déchirement du cœur et non pas des vêtements, et un repentir vers le Seigneur avec des jeûnes, des pleurs et des gémissements. Comme Dieu le dit par Zacharie, un esprit de grâce et de supplication fut répandu sur ses enfants. Ils se tournaient vers celui qu'ils avaient percé, et il y eut un grand deuil dans le pays, chaque famille à part et leurs femmes à part, et ceux qui étaient à la recherche de l'Éternel affligeaient leurs âmes devant lui. Le peuple poussé par un pouvoir surnaturel. Concernant encore cette proclamation excitante, il dit « Elle nous semblait avoir été si indépendante de l'homme que nous ne pouvions que la considérer être l'accomplissement du cri de minuit, après le retard de l'époux et l'assoupissement et le sommeil des vierges, lorsqu'elles allaient toutes se réveiller et préparer leurs lampes. Et le dernier travail semble avoir été fait, car il n'y eut jamais une telle période auparavant où tous les groupes adventistes étaient si bien préparés pour la venue du Seigneur. Bien matériel abandonné. Sous l'effet de cette proclamation excitante de la doctrine adventiste, beaucoup abandonnèrent leurs biens matériels, utilisant leurs biens pour pourvoir aux besoins des orateurs dans leur travail, ou pour la diffusion de journaux et de tracts imprimés, ou pour pourvoir aux besoins des indigents, donnant ainsi au monde la meilleure preuve de leur sincérité et honnêteté, tandis que ceux qui s'accrochaient à leurs biens terrestres et ne firent aucun sacrifice spécial pour l'œuvre furent marqués par les gens du monde comme ne croyant pas vraiment à ce qu'ils professaient. À titre d'illustration, je donnerai deux exemples, un de chaque côté de la question. Un champ de pommes de terre. Le premier est celui d'un croyant qui vivait à New Ipswich, New Hampshire, du nom de Hastings, qui avait un grand champ de pommes de terre magnifique qu'il laissa en terre. Ses voisins étaient anxieux de cela et vinrent lui offrir de les déterrer et les mettre dans la cave pour lui gratuitement, s'il les laissait faire, car, ont-ils déclaré, il se peut que vous en ayez besoin. « Non, dit M. Hastings, je vais laisser ce champ de pommes de terre prêcher ma foi en la proche venue du Seigneur. » Cet automne-là, comme nous pouvons l'apprendre de l'Eagle de Claremont, New Hampshire, du True Sun de New York et de divers autres journaux, la récolte de pommes de terre fut une perte presque totale à cause de la pourriture de la pomme de terre. Tel que cela fut exprimé dans le Sun, combien il est douloureux d'apprendre que des récoltes entières de ce précieux comestible ont été détruites par la pourriture. Un correspondant d'un journal de Philadelphie dit que la récolte de pommes de terre de cet état était ruinée. Le seul endroit dont peu de plaintes furent entendues est le Maine, mais même là, la récolte n'a pas échappé à la maladie. Comme l'automne fut doux et que les pommes de terre de M. Hastings furent laissées dans le sol jusqu'en novembre, aucune d'elles n'a pourri. Par conséquent, il avait une provision abondante pour lui-même et pour ses infortunés voisins qui avaient été si soucieux de son bien-être au mois d'octobre précédent et qui, au printemps, furent obligés de lui acheter des semences de pommes de terre et furent heureux de payer un bon prix pour elles. Ce qu'il supposait être une telle calamité pour M. Hastings, Dieu l'a tourné en une bénédiction temporelle et non seulement pour lui, mais aussi pour ses voisins. Il renia sa foi. Le second cas s'est produit dans mon propre lieu de résidence. C'était celui d'un membre d'église qui avait beaucoup à dire dans les rencontres à propos de la venue du Seigneur en automne 1844. Cet homme avait une grande propriété et, entre autres choses, avait beaucoup de porcs juste du bon âge pour les garder jusqu'au marché de printemps. Un de mes oncles, qui n'a pas de prétention religieuse et dont l'activité était l'achat et la vente de stocks, s'est rendu chez cet adventiste de profession pour lui acheter ses porcs, mais apprit de lui qu'il ne voulait pas les vendre, qu'il allait les garder jusqu'au printemps prochain pour les boutiques de porcs. L'oncle est venu voir mon grand-père, qui était un croyant adventiste, et dit « Cet homme ne croit pas ce qu'il professe. Pourquoi » « Pourquoi ? » demanda grand-père. « Parce que, répondit l'oncle, il dit que le Seigneur va venir et que le monde s'achèvera cet automne, mais il veut garder ses porcs jusqu'au printemps prochain. Il n'a pas besoin de me parler, il n'en croit pas un mot. » Moyen offert trop tard. Il y eut des hommes qui conservèrent leurs biens tout en luttant contre la conviction qu'ils devaient les utiliser pour faire progresser l'œuvre, jusqu'à ce qu'il fût trop tard pour les investir. De telles personnes sont venues voir ceux qui imprimaient le message, les exhortant avec larmes d'accepter leur argent. Mais la réponse était « Vous venez trop tard. Nous avons payé toute la matière imprimée que nous pouvons faire circuler avant la fin. Nous avons loué plusieurs presses mécaniques pour fonctionner nuit et jour. Nous ne voulons plus d'argent. » Un témoin oculaire m'a affirmé qu'il vit des hommes jeter des milliers de dollars sur le bureau de l'éditeur de la Voice of Truth et l'esprit dans l'angoisse lui demandait de les prendre et de les utiliser. La réponse était « Vous venez trop tard. Nous ne voulons pas votre argent maintenant. Nous ne pouvons pas l'utiliser. » Puis ils ont demandé « Ne peut-il pas être donné aux pauvres ?» La réponse était la même. Nous avons pris des dispositions pour les besoins immédiats de tous ceux que nous pouvons atteindre. L'esprit angoissé, les hommes ont repris leur argent, déclarant que Dieu leur fronçait les sourcils pour leur manque de foi et leur convoitise qui les conduisirent à refuser des moyens à la cause de Dieu quand ils étaient nécessaires et auraient été utilisés avec joie. Des tuteurs désignés. Le caractère et les principes de ceux qui abandonnèrent leur culture non récoltée et leur boutique désolée, pour propager la page imprimée ou pour parler et prier avec les gens, ne mettent pas en doute que de tels hommes et femmes croyaient chaque mot qu'ils disaient et un tel pouvoir les accompagnait que les cœurs honnêtes ne pouvaient pas résister ou contredire leurs paroles. Des milliers furent conduits par ce moyen à croire à la vérité et recherchèrent et trouvèrent la miséricorde de Dieu. Le pêcheur moqueur et le professeur de foi mondain, cependant, décidèrent que ce travail de diffusion de publications adventistes devait être arrêté. Ces hommes qui travaillaient dans une commune ou dans tout un comté et qui allaient de maison en maison avec cette doctrine adventiste, négligeant leurs affaires et leurs familles, doivent être hors d'eux-mêmes, dirent-ils, et doivent donc être placés sous des gardiens. la prétendue preuve de déficience mentale manifestée par les croyants, en travaillant simplement pour le salut de leurs semblables, sans aucune preuve que les familles souffraient qu'ils aient abandonné leur travail, était une preuve insuffisante de folie. En conséquence, peu de personnes furent placées sous tutelle. À en juger par la désinvolture avec laquelle les adversaires d'aujourd'hui parlent de ce fait, on pourrait penser qu'il y eut de nombreux cas. Pourtant, dans tous mes travaux de pasteur adventiste, couvrant une période de plus de 56 ans, je n'ai rencontré que deux cas de millérites qui furent placés sous des gardiens. Une brève mention de ceci n'est pas hors de propos. Son propre gardien. Le premier cas eut lieu dans l'État de New York, à moins de 50 km de l'endroit où je vivais. Un homme qui valait environ 100 000 $ accepta la doctrine adventiste. Il donna environ la moitié de cette somme à sa femme et ses enfants, qui n'étaient pas avec lui dans la foi. Il considéra le reste comme étant sien pour utiliser comme bon lui semblait, et comme une partie fut mise dans la cause adventiste, ses enfants soulevèrent des objections, et conseillés par un juge, plaidèrent pour qu'un tuteur fût nommé pour leur père. Après que le juge eut expliqué les fonctions et le pouvoir d'un tuteur dans la gestion de la propriété, il leur a demandé de dire celui qu'il souhaitait nommer. Après s'être consultés ensemble pendant un certain temps, ils décidèrent qu'ils ne connaissaient pas d'homme à qui ils oseraient confier la propriété, et rapportèrent au juge qu'ils avaient choisi leur père comme son propre gardien. Le juge se tourna vers l'homme et dit « Monsieur un tel, vos enfants vous ont choisi comme la bonne personne pour gérer votre propre propriété. Vos affaires sont justes comme elles étaient avant que vous soyez traduit devant le tribunal. » Une situation ridicule. L'autre cas est celui de Stockbridge Howland de Topsham, Maine. Il était l'un des meilleurs mécaniciens dans toute cette partie du pays, un excellent ouvrier dans la construction de moulins et de ponts. Dans ce mouvement du cri de minuit, M. Howland alla à cheval dans plusieurs cantons pour diffuser des documents et des tracts adventistes de maison en maison, à la grande contrariété d'opposants et de moqueurs qui se plaignirent que par cette distribution de tracts, il négligeait son entreprise. Aussi, ils obtinrent aussitôt la nomination d'un tuteur qui trouva plus de choses à faire qu'il n'avait anticipé, car M. Howland lui envoyait tous les collecteurs de taxes et, en fait, tous ceux qui venaient avec des comptes à payer. « Car, disait-il, je ne suis pas considéré comme compétent pour faire des affaires. » Peu après, le comté voulut construire un pont sur le fleuve Kennebec, un pont qui devait supporter le torrent d'eau furieuse et la glace flottante au temps des crues printanières. Les commissaires du comté et les membres du conseil d'administration de la ville décidèrent que Stockbridge Howland était l'homme pour le travail. Quand ils sont venus avec des spécifications et un contrat pour construire le pont, il dit, ironiquement, « Messieurs, vous devrez aller voir mon gardien. Vous savez que je ne suis pas considéré compétent pour m'occuper de mes propres affaires, et vous venez à moi pour construire un pont. » La situation était un peu trop ridicule pour des hommes raisonnables. Aussi la tutelle prit fin brusquement. Il suffit de dire qu'après cela, ses persécuteurs reconnurent très humblement que ce qu'ils avaient fait était injuste et injustifié.